Merci d'écouter RFI, 6h à Paris, 5h en temps universel.
Gaëtan Plenet.
RFI Matin, c'est parti, on commence avec le journal. Bonjour Alban Leprince.
Bonjour Gaëtan, bonjour à tous.
À la une ce matin, la réouverture de l'aéroport international de Damas en Syrie.
Ce sera mardi, un mois quasi jour pour jour après la chute de Bachar al-Assad. Plusieurs compagnies ont déjà annoncé la reprise de leur vol vers la capitale syrienne. Quid des liaisons coupées depuis plusieurs années. Au moins 338, c'est le nombre de personnes exécutées en 2024 en Arabie Saoudite, un record dénoncé par les organisations de défense des droits humains. Au sommaire, également la solidarité qui continue de s'organiser dans l'Hexagone pour Mayotte, 3 semaines après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 39 morts. Et puis, il doit être présenté demain au procureur de la République. L'homme accusé d'avoir tué une fillette de 12 ans dans la nuit du Nouvel An au Sénégal a été arrêté. Les détails dans ce journal.
Près d'un mois après la chute en Syrie de Bachar al-Assad, un avion d'aide humanitaire égyptien a atterri hier à Damas.
L'aéroport ouvrira d'ailleurs mardi pour les vols internationaux en provenance et à destination de Damas. Pour l'instant, il s'agit des liaisons commerciales qui avaient été suspendues au moment de la fuite de l'ancien président. Mais qu'en est-il de celles coupées depuis plusieurs années ? Élément de réponse avec Nicolas Falaise.
Ces dernières années, les vols internationaux étaient rares sur l'aéroport de Damas, capitale d'un État paria. Le changement de pouvoir en Syrie se traduira-t-il par une relance du trafic aérien commercial ? La première condition est celle de la sécurité, nous dit Jean Serra, ancien pilote de ligne, aujourd'hui consultant sur les questions aéronautiques.
Avec le nouveau gouvernement qui est en place, si les États européens estiment que ce n'est plus un territoire dangereux, ils peuvent dire, bon ben pour nos compagnies, l'espace aérien syrien est à nouveau ouvert.
Vient ensuite le processus d'autorisation des liaisons aériennes. Jean Serra.
Il faut qu'il y ait un accord déjà entre les deux pays. Pas des compagnies aériennes, je parle bien de deux pays qui acceptent qu'il y ait, par exemple, un droit de trafic pour aller de la Syrie vers un pays d'Europe et que ce même pays d'Europe obtienne en échange un droit de trafic pour aller de ce pays européen vers la Syrie.
Et après cette étape, les compagnies et les aéroports doivent encore négocier leurs accords commerciaux. Qatar Airways a déjà annoncé la reprise prochaine de ses vols vers la Syrie, après 13 ans d'interruption. Pour l'instant, ce sont surtout des avions chargés d'aide internationale qui se posent sur l'aéroport de Damas.
Nicolas Falaise.
Toujours au Proche-Orient, Israël a finalement confirmé hier la reprise de négociations indirectes avec le Hamas, en vue de la libération des otages retenus dans la bande de Gaza.
Déclaration alors que plusieurs dizaines de personnes sont mortes hier dans des frappes israéliennes et que la branche armée du Hamas a diffusé une nouvelle vidéo d'une otage, vidéo de 3 minutes 30, impossible à dater, dans laquelle une jeune femme de 19 ans appelle le gouvernement israélien à agir pour obtenir sa libération. Notez par ailleurs que les sirènes d'alerte ont retenti ce matin dans le nord d'Israël après le tir d'un missile en provenance du Yémen qui a été intercepté avant de pénétrer le territoire d'après l'armée israélienne.
Un triste record en 2024, Alban, pour l'Arabie Saoudite.
Au moins 338 personnes ont été exécutées l'année dernière, soit quasiment une tous les jours. Une frénésie sans précédent dénoncée par 2 organisations de défense des droits humains. Les sentences sont jugées troubles et exagérées, Marius Roland.
Ces 6 derniers jours, 6 Iraniens ont été exécutés pour possession de drogue sur le territoire saoudien. C'est l'un des motifs de condamnation les plus fréquents, avec celui de manifester. Mais une fois que les personnes arrêtées sont en prison, il est difficile de connaître leur sort.
Le couloir de la mort en Arabie Saoudite, c'est une boîte noire. Aucune transparence. On n'a pas idée de ce qu'il se passe là-bas.
Jid Bessioni est représentante Moyen-Orient de l'ONG britannique de défense des droits humains Reprieve.
Des gens sont condamnés et exécutés, sans avoir jamais parlé à un avocat. L'utilisation de la torture est brutale en Arabie Saoudite. Nous savons que les gens sont maltraités dès leur arrestation jusqu'à leur mort. Depuis le Covid, ces exécutions se font en prison, secrètement. Les corps ne sont pas renvoyés aux familles, donc on ne sait pas vraiment dans quelles circonstances ils sont tués.
Et en Arabie Saoudite, un délit est vite commis, tant les lois sur les mœurs sont à la fois strictes et peu connues.
Il est difficile de savoir ce qui est légal ou pas. Vous pouvez être exécuté pour quelque chose qui n'apparaît pas clairement dans la loi. C'est totalement arbitraire. Donc, tout le monde est constamment en danger.
Jid Bessioni appelle tous les touristes à redoubler de vigilance sur le territoire saoudien.
Marius Roland.
Il est 8h05 à Mamoudzou et 3 semaines après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 39 morts et 5600 blessés. Marine Le Pen, chef des députés Rassemblement National, est attendue à Mayotte aujourd'hui.
Un coup d'envoi d'une visite qui devrait durer jusqu'à mardi pour l'ancienne candidate à la présidentielle qui avait obtenu près de 60% des voix en 2022 sur l'archipel. Elle rencontrera secouristes et sinistrés, tandis que dans l'Hexagone, la solidarité continue de s'organiser. Exemple, avec les collectes de dons à la Bourse du Travail de Saint-Denis, en région parisienne, organisée par l'ONG Outre-mer Solidarité Catastrophe Mayotte. Siti Maliki est l'une de ses membres.
Alors, en priorité, on a collecté les besoins les plus urgents, immédiats, les besoins vitaux. C'est boire, dans un premier temps, boire de l'eau. Donc, aujourd'hui, on a reçu 2 camions d'eau, des packs d'eau. Ça fait plus de 2 palettes. C'est plus de 200 packs d'eau. C'est énorme sur chaque palette, dans chaque camion. Ils vont revenir encore. On a reçu du lait infantile, des couches bébés. Donc, on a arrêté les vêtements pour femmes, pour hommes. On a reçu des produits de pharmacie et on priorise les denrées alimentaires non périssables. Et vraiment, c'est magnifique. C'était leur générosité.
Des propos recueillis pour RFI par Sylvie Coffi.
Claude Allègre est mort hier à l'âge de 87 ans.
Récompensé de plusieurs prix pour ses travaux, dont une médaille d'or du CNRS, mais aussi devenu l'une des figures du climato-scepticisme en France. Il avait occupé de 1997 à 2000 le poste de ministre de l'Éducation et avait notamment promis, je cite, de dégraisser le mammouth. François Bayrou, son prédécesseur et actuel Premier ministre, rend honneur à un esprit original, grand scientifique, homme de combat qui ne craignait pas le seul contre tous.
Les États-Unis, de leur côté, font leurs adieux à Jimmy Carter, 39e président américain et prix Nobel de la paix.
Décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans, le coup d'envoi de 6 jours de cérémonie a été donné hier dans sa ville natale de Plains, en Géorgie, avant la journée de deuil national prévue le 9 janvier. Jusqu'à mardi matin, les Américains pourront se recueillir devant sa dépouille au Carter Center, sa fondation installée à Atlanta, avant d'être transporté jusqu'au Capitole à Washington. En hommage, les drapeaux ont été mis en berne pour 30 jours, y compris le 20 janvier. Jour du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ce qui a provoqué sa colère. Il affirme que personne ne voulait voir ça pendant sa cérémonie d'investiture.
Il est 5h07 à Dakar, au Sénégal. Fin de cavale pour le meurtrier présumé de la petite Souadou, 12 ans.
Tué la nuit du Nouvel An. La police a donc interpellé un homme qui doit être présenté demain au procureur de la République. Un suspect qui connaissait bien la fillette et dit avoir agi sous l'emprise de la drogue. La correspondance à Dakar pour RFI de Birahim Touré.
Elle s'appelait Souadou Sow. Son présumé meurtrier lui était très familier. C'est le papa de sa meilleure amie âgée comme elle d'à peine 12 ans. Souadou a été étranglé alors qu'elle revenait de l'échoppe du coin pour ramener des cigarettes à son tonton, comme demandé par ce dernier. Elhaj Modoufal, le présumé meurtrier, a profité de cet instant pour lui ôter la vie, selon le commissaire de police de Malika, dans la banlieue de Dakar, où les faits se sont déroulés. La chef de la police de la localité, le commissaire Adia Kumbandiaï, révèle que dès la première audition, le présumé meurtrier a avoué son forfait tout en niant une tentative de viol. Une autopsie a été demandée. Elhaj Modoufal, âgé d'une 30aine d'années, sera encore présenté au procureur ce lundi après un premier face-à-face vendredi dernier. Plusieurs associations de défense des droits de l'homme sont montées au créneau pour condamner cet acte et la ministre sénégalaise de la Famille a demandé à la justice d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Birahim Touré, Dakar, RFI.
Dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont réussi à s'emparer hier de la ville de Masisi.
Une ville clé de l'est du pays, à environ 80 km de Goma, où les rebelles avaient continué de gagner du terrain ces derniers jours suite à l'échec d'un sommet prévu à Luanda, en Angola, mi-décembre, entre les chefs d'État de la RDC et du Rwanda, au cours duquel un accord pour le rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région devait être mis sur la table en vain.
En Autriche maintenant, le chancelier conservateur Karl Nehammer annonce sa démission.
Il a fait savoir hier qu'il quitterait ses fonctions de chancelier mais aussi de président de son parti dans les prochains jours. Plus de 3 mois après les élections législatives, Karl Nehammer n'a pas réussi à trouver d'accord avec les sociaux-démocrates en vue de former le prochain gouvernement. Décision inattendue qui pourrait entraîner de nouvelles élections anticipées ou forcer les conservateurs à négocier avec l'extrême droite arrivée en tête aux législatives.
À 5h09 en temps universel, que ce soit la Chine, l'Indonésie, l'Allemagne ou encore l'Inde, de nombreux pays ont battu des records de chaleur en 2024.
C'est aussi le cas du Brésil avec 25,02 degrés en moyenne. L'année dernière, c'est 0,79 degrés de plus que la moyenne historique pour le pays où le mercure monte année après année. Une situation qui préoccupe les Brésiliens. Reportage à Rio de Janeiro de Sarah Cozzolino.
La température ressentie est de 38 degrés à Rio de Janeiro en ce samedi et les cariocas sont venus chercher un peu de fraîcheur au centre commercial. Amanda, la vingtaine, fait la queue chez le glacier.
L'année dernière, en 2024, je suis venue au centre commercial spécifiquement pour fuir la chaleur. Je peux passer une journée entière à l'intérieur juste pour respirer, parce que dans la rue, c'est impossible.
L'utilisation de la climatisation, habituellement réservée aux périodes les plus chaudes de l'été, est désormais commune sur toute l'année, même dans les régions plus fraîches comme les zones montagneuses de l'État de Rio, où vit ce couple à Nova Friburgo.
Nous n'avons pas encore mis la climatisation, mais la plupart de nos voisins ont la clim et une cheminée.
Nous sommes en été, mais il y a 15 jours, j'ai allumé la cheminée, pour vous donner une idée de ce temps qui passe du très chaud au froid d'un coup.
En 2024, le pays a connu des périodes de sécheresse extrême en Amazonie et d'inondations dans le sud du pays. Cette retraitée ne se sent plus en sécurité où elle vit aujourd'hui.
Moi, je suis très inquiète. Si aucune décision n'est prise, la situation va devenir problématique sur ces questions d'excès de chaleur et de froid.
Sans grande conviction, elle dit espérer que la COP30 en Amazonie réveillera les dirigeants sur l'urgence de la situation. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
On termine ce journal Alban avec du cinéma. Et alors que la 82e édition des Golden Globes a lieu la nuit prochaine à partir de 2h, temps universel à Beverly Hills, c'est Emilia Pérez, la comédie musicale de Jacques Audiard, qui part favorite avec 10 nominations.
Et en attendant, vous pouvez aller au cinéma voir La Source, premier long métrage de Myriam Jouber qui évoque la douleur de parents dont les fils ont choisi de rejoindre les rangs de Daesh en Syrie. Elisabeth Le Carré.
Il y a 5 ans, Myriam Jouber avait été nommée aux Oscars pour Brotherhood, un court-métrage sur les répercussions de la radicalisation dans une famille tunisienne. Avec son nouveau film, elle poursuit sa réflexion sur ce sujet délicat. Dans La Source, un couple de paysans dont les deux fils se sont enrôlés auprès de Daesh voit sa vie bouleversée lorsque l'un d'eux revient. Mehdi n'a plus rien de l'adolescent qu'ils ont connu, sombre et mutique. Il a à ses côtés une jeune femme voilée qu'il a, dit-il, épousée en Syrie. Il s'ensuit une narration qui procède par remontée fragmentaire du passé violent de Mehdi, tout en tissant une chronique familiale et intime dans laquelle l'amour que Aïcha, la mère, porte à son fils, tient le rôle principal. Myriam Jouber force parfois sur le didactisme, mais finit par emporter le morceau en jouant habilement des codes entre réalisme et fantastique, donnant à son huis clos des allures de fable shakespearienne campée dans l'arrière-pays tunisien.
Elisabeth Le Carré pour la sortie au cinéma de La Source, premier long métrage de Myriam Jouber.
Et c'était le journal d'Alban Le Prince, 6h13 à Paris. RFI Matin, on est ensemble jusqu'à 9h et nouvelle manifestation hier en Israël pour faire pression sur le gouvernement. Les protestataires veulent une trêve à Gaza pour permettre la libération des otages encore détenus par le Hamas dans l'enclave palestinienne. Les deux camps ont d'ailleurs confirmé la reprise de négociations indirectes au Qatar. On en parle dans nos éditions ce matin. Tout à l'heure dans la chronique défense, on va évaluer les probabilités d'aboutir à la fin d'une autre guerre. Celle en Ukraine, c'est loin d'être fait, même si les conditions d'un règlement du conflit sont semble quand même se rapprocher. Et puis d'autres chroniques à suivre, bien sûr, mais aussi des reportages, du sport, la revue des hebdos. Installez-vous, on est ensemble jusqu'à 8h en temps universel. Et d'abord, premier trophée de l'année footballistique en France ce dimanche, le trophée des champions, qui oppose traditionnellement le champion de France en titre de Ligue 1 au dernier vainqueur de la Coupe de France, sauf que dans les deux cas, c'est le PSG qui s'est imposé, il lui fallait bien un adversaire et ce sera finalement Monaco, deuxième à la fin du dernier championnat. Coup d'envoi à 16h30 en temps universel, mais ce ne sera ni en terre parisienne ni en terre monégasque, mais à Doha, au Qatar, un match reporté plusieurs fois et délocalisé donc dans les Mira qui, une fois de plus, prouve son influence sur le football hexagonal, Cédric d'Oliveira.
On a la sensation de jouer à la maison, Luis Enrique ne s'en cache pas. Pour l'entraîneur du PSG, détenu par QSI, actionnaire qatarien, ce trophée des champions aura lieu presque à domicile. Et si les supporters des deux clubs ne feront pas le déplacement de 5000 km, pour Christophe Le Petit, économiste du sport, Doha était la solution la plus évidente à court terme.
Ce qui a orienté le choix vers Doha, c'est probablement qu'il y a eu une offre financière du Qatar qui était supérieure, sans compter les sujets organisationnels. Le Qatar, depuis 10 ou 15 ans désormais, organise très régulièrement ce type d'événement. Donc c'est des choses qui sont très rodées côté Qatari.
Prévu au départ en août en Chine, l'événement pensé comme une vitrine du foot français à l'étranger a été reporté plusieurs fois. D'autres pays comme la Côte d'Ivoire étaient intéressés. Et pour Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport, ils auraient offert une autre exposition.
Si on réfléchit en termes de développement du produit Ligue 1, évidemment, il ne fallait pas aller au Qatar. Vous êtes sur un petit marché. Si on voulait internationaliser, il fallait aller ailleurs. Il y avait l'hypothèse asiatique plus large qui était sur la table, mais surtout une hypothèse ivoirienne avec un vrai financement. Et puis très rapidement, le Qatar a surenchéri. Pour le football français, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des stratégies.
Pour rafler la mise, le Qatar aurait mis 3 millions d'euros sur la table, suffisant pour s'inscrire dans une logique que l'Émirat suit depuis plus de 15 ans, selon Christophe Lepetit.
Le Qatar, comme d'autres pays, instrumentalise le sport à des fins de soft power et à des fins géopolitiques. Donc il ne faut pas s'étonner de voir le trophée des champions français avoir lieu dans ce type de pays, ça fait partie de leur stratégie.
Alors que le foot français se serre la ceinture après des droits télé revus à la baisse, les liens entre le Qatar et la LFP n'ont jamais semblé aussi forts et font craindre un conflit d'intérêts. Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, est notamment au conseil d'administration de la LFP et dirigeant de Bein Sport, l'un des diffuseurs de la Ligue 1. Pour Jean-Baptiste Guégan, c'est le signe que Doha a l'ascendant.
Alors aujourd'hui, le Qatar exerce un rapport de force. Avant, il était une solution, aujourd'hui, il peut être un problème. Il fait valoir ses intérêts là où avant, ses intérêts servaient le football français. Donc la Ligue 1 n'est pas un atout pour lui, c'est finalement une sorte d'élément de son fonds de commerce. Et on peut se dire que aujourd'hui, ils sont plus à essayer de maintenir une position qu'autre chose, sachant qu'elle est clairement acquise dans le cadre du football français. Et c'est ce que nous dit aussi le fait que le trophée des champions se déroule à Doha.
À l'avenir, le Qatar devrait tenter de poursuivre sa stratégie de soft power avec d'autres compétitions. Le pays redoute de se faire distancer par son voisin, l'Arabie Saoudite, qui organisera notamment la Coupe du Monde de football en 2034.
Cédric de Oliveira, PSG Monaco, ce sera ce dimanche à partir de 16h30 en temps universel. C'est l'heure de notre première chronique politique de l'année avec une question. 2025 va-t-elle être aussi chaotique pour Emmanuel Macron que 2024, marqué par la déflagration d'une dissolution qui a engendré l'instabilité politique? Bonjour Valérie Gasse.
Bonjour Gaëtan.
Alors le chef de l'État, Valérie, va-t-il continuer à payer cette année le prix de sa décision de dissoudre l'Assemblée?
Eh bien certainement, car la dissolution est un poison durable qu'Emmanuel Macron a lui-même injecté dans son quinquennat. Quand il a prononcé ses vœux aux Français le 31 décembre, le président de la République a bien tenté de tourner la page de cette dissolution ratée en reconnaissant pour la première fois depuis 6 mois que sa décision avait provoqué plus de division que de solution, mais faire tardivement œuvre de lucidité et d'humilité risque de ne pas être suffisant pour inverser la tendance. Il est loin le temps où l'on surnommait Emmanuel Macron Jupiter pour manifester sa puissance et sa domination. Dans l'entourage du chef de l'État, on en est désormais réduit à théoriser la posture du président qui préside, du garant plus que du gouvernant, pour tenter de faire comme si finalement cette situation d'affaiblissement du président était maîtrisée et créée autour de lui une bulle institutionnelle protectrice en agitant les pouvoirs qui lui restent, par exemple celui d'organiser des référendums.
Cela veut-il dire qu'Emmanuel Macron a besoin de protection?
Oui, parce qu'il est clairement dans le viseur de ses adversaires et surtout de Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis déjà 3 fois candidat à la présidentielle, se verrait bien tenter sa chance une quatrième fois et pourquoi pas dès 2025 lors d'un scrutin anticipé. Alors après avoir tenté sans succès de lancer une procédure de destitution, il joue maintenant la carte de l'appel à la démission d'Emmanuel Macron. La stratégie de censure à répétition de LFI vise à provoquer l'instabilité et à mettre le chef de l'État dans une situation où son départ de l'Élysée serait la seule solution.
Et Marine Le Pen, elle aussi, met la pression sur Emmanuel Macron.
Oui, elle ne réclame pas clairement sa démission, mais laisse planer l'hypothèse et s'interroge sur la capacité du président à tenir jusqu'en 2027. Dans ce contexte, un cadre renaissant s'inquiète de la volonté d'accentuer la pression en 2025 des deux opposants qui sont poussés, dit-il, par l'horloge qui tourne. Une horloge biologique, selon lui, pour l'insoumis de 73 ans. Une horloge successorale pour la députée RN talonnée par Jordan Bardella. Reste à savoir jusqu'à quand, face à leurs assauts, Emmanuel Macron réussira, lui, à faire avancer l'horloge présidentielle.
C'était la chronique politique. Merci Valérie Gasse.
RFI, toute l'actualité, Gaëtan Plenet.
À 6h19 à Paris et dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont pris contrôle hier samedi de la ville de Masisi Centre après de violents affrontements avec l'armée congolaise appuyée elle par les milices locales dites Wazalendo. La chute de cette ville clé et chef-lieu du territoire de Masisi situé à plus de 80 km à l'ouest de Goma a conduit à un déplacement massif de la population. Les négociations sur Gaza ont bien repris au Qatar après le Hamas. Israël le confirme à son tour. Des négociations indirectes, alors qu'hier, les services de secours gazaouis ont fait état d'au moins 31 morts après de nouvelles frappes israéliennes. Les États-Unis ouvrent 6 jours d'hommage à Jimmy Carter, l'ex-président américain, mort le 29 décembre dernier à l'âge de 100 ans. Ces cérémonies vont se poursuivre jusqu'à jeudi, date du jour de deuil national. Et puis la 82e cérémonie des Golden Globes aura lieu la nuit prochaine à Los Angeles. C'est un petit peu l'antichambre des Oscars. Et c'est la comédie musicale Emilia Pérez du français Jacques Audiard qui est la grande favorite avec pas moins de 10 nominations. La Russie promet des représailles alors que l'Ukraine aurait tiré, selon Moscou, des missiles américains à Takhmets vendredi sur la région frontalière russe de Belgorod. Alors on ignore s'il y a eu des victimes ou bien des dégâts. Mais depuis le mois de novembre et le feu vert américain à Kiev d'utiliser de tels missiles longue portée, l'armée ukrainienne s'en est servie à plusieurs reprises. Ces dernières semaines, le président russe avait menacé de frapper le centre-ville de Kiev en cas de nouvelle utilisation de ces Atakhmets. Poutine, seigneur de guerre ou Poutine, lord of war, c'est le titre de notre livre international du jour. Un essai, une plongée même au cœur de la vision de la guerre imposée par le chef du Kremlin. C'est aux éditions Mareuil et c'est signé Père de Jong, docteur en sciences politiques et cofondateur de l'Institut Témis. Il est avec Franck Alexandre.
Poutine lord of war, car il a réhabilité la guerre comme projet de société. Bonjour, Père de Jong.
Bonjour.
Et l'on découvre la psychologie de Vladimir Poutine, pour qui la guerre froide n'a en fait jamais cessé.
En fait, il l'a dit très clairement. Hein. Il y a quelques années, il a dit en fait, la Russie n'a jamais perdu la guerre froide parce qu'elle n'a jamais cessé. La guerre aujourd'hui qui se déroule en Ukraine, elle s'inscrit dans ce cadre-là. Et la relation qu'il met en place avec l'OTAN, avec les États-Unis, avec l'Occident d'une façon générale, est en fait le retour de la guerre froide telle qu'il l'a connue avant 1989. Et tel qu'il l'imagine pour l'avenir.
Tout commence d'ailleurs à Berlin lorsque Vladimir Poutine s'appelle Platov.
Novembre 1989, Platov, qui est en fait Vladimir Poutine est dans l'immeuble du KGB. L'immeuble à côté, c'est l'immeuble de la Stasi, en train d'être détruit par des manifestants qui se vengent en fait sur le pouvoir est-allemand. Platov observe ça avec ses collaborateurs. Ils sont 7 dans une pièce au deuxième étage. Il essaie d'avoir de l'aide des informations de ses chefs qui en fait sont occupés à brûler des papiers quelque part. Donc en fait, personne ne lui répond. Et donc Platov prend une arme, il descend au rez-de-chaussée, et là, il se met face à la foule vociférante, et il leur dit très clairement, cet immeuble qui est derrière moi est un immeuble soviétique, je suis un officier soviétique, donc vous ne rentrerez pas. J'ai une arme à la main, j'ai 12 cartouches, il y en a une qui est pour moi, les autres sont pour vous. La foule se calme, elle fait demi-tour, elle recule, et il remonte au deuxième étage, et Platov redevient Poutine ce jour-là.
Vladimir Poutine, en fait, violent et rassurant, toujours.
Oui, il a appris beaucoup parce que ce choc qu'il a eu, où il a pris un risque majeur physiquement, enfin personnellement, il l'a reproduit et on voit bien que dans ses interventions, il est toujours extrêmement menaçant, mais toujours extrêmement calme, extrêmement froid. Et en fait, c'est vrai qu'il essaye d'émettre un message qui est en même temps violent et en même temps rassurant. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Les chefs d'État qui l'ont approché, en général, en retirent une sorte de malaise quelque part.
Très vite, Vladimir Poutine place autour de lui ses boyards, ses chefs de guerre, de Prigogine et qu'il le supprime également.
Poutine est un modèle extrêmement étrange. En tout cas, il a intégré les principes de la guerre. Son principal principe, c'est l'économie des moyens. Il est sur un modèle minimaliste. Et pour faire une guerre minimaliste, il y a deux choses qu'il faut faire ou pas faire. La première chose, il ne faut pas qu'il y ait de conscription. Il ne faut pas que la jeunesse russe soit liquidée sur le front ukrainien. Donc il fait attention. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ses boyards. En fait, ce sont ses sociétés militaires privées. Et Wagner en est le plus connu, mais il y a des centaines de sociétés militaires privées actuellement en Russie qui sont en fait des agents d'exécution en fait de la politique de Poutine. Quand Prigogine prend de l'ampleur, le tsar de toutes les Russies décide de se séparer de son vieux boyard, mais quelque part en fin de compte, probablement sous la pression de son environnement, et probablement qu'aujourd'hui Prigogine lui manque.
Des boyards donc au service d'une ambition, il y a l'Afrique bien sûr, et puis cette alliance sans limite avec Pékin. Poutine a une stratégie et il a de la bouteille.
Il coince un vieux chef d'État parce qu'il arrive aux affaires exactement en 2000, donc il a exactement 47 ans. Et donc ça fait quand même beaucoup d'années. Aujourd'hui, il a 72 ans. Donc il a appris le métier, il pratique les rapports de force depuis longtemps. Donc lui, dans son esprit, il y a trois niveaux de réflexion. Le premier niveau, c'est le niveau de la protection de son flanc ouest, de son glacis ouest. Donc c'est la guerre en Ukraine, c'est l'interdiction que l'Ukraine et la Géorgie rentrent au sein de l'OTAN. Le deuxième niveau, c'est un combat, je dirais, euro-asiatique, dans lequel il a une alliance extrêmement ferme avec Pékin. Ça, c'est un vrai changement diplomatique et géostratégique dans le monde. Cette alliance extrêmement bizarre qui n'existait pas auparavant et qui maintenant existe, et qui peut même se développer au travers de la création de ce qu'on appelle l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui peut devenir quelque part un OTAN bis, en tout cas un OTAN asiatique. Et puis le troisième niveau, ça c'est une vraie réussite de Poutine, il faut le souligner, c'est qu'il s'inscrit dans une logique de Sud global contre l'Occident collectif. Et ça, c'est le choc frontal de deux cultures, de deux modes d'action, dans lesquels nous, Européens, on est extrêmement, on n'a pas la clé. On réagit nous trop fortement par rapport à eux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les pays du Sud, l'Afrique a un regard par rapport à nous extrêmement distancié, travaillé au corps, évidemment, par les Russes.
Un mot sur la dialectique nucléaire. L'ambition du Kremlin, c'est également restaurer la peur en Occident.
Oui, bien évidemment. Le problème, c'est qu'en fait, l'armée russe, entre guillemets, n'a cessé de chuter depuis les années 90, sauf dans un seul domaine, qui est le domaine des missiles. Donc, il est aujourd'hui très dominant dans ce domaine-là, probablement meilleur que les Américains. Donc, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, on voit bien que dans la diatribe de Poutine, il met en place tout de suite le fait qu'il domine dans le domaine du nucléaire et dans le domaine des missiles et dans le domaine des vecteurs. Et il s'appuie là-dessus pour inquiéter l'OTAN et l'Occident.
Poutine, l'heure de voir aux éditions Mareuil. Merci, Père de Jong.
Merci beaucoup.
Notre livre international du jour avec Franck Alexandre, que l'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure pour la chronique Ligne de Défense. À chaque dimanche sur RFI, on vous fait entendre un extrait de l'émission L'Atelier des médias, diffusé à la mi-journée sur notre antenne, avec vous à la présentation, Steven Jambot. Et aujourd'hui, une rediffusion d'une enquête sur la place prise par l'application chinoise TikTok dans les apprentissages des lycées et des étudiants.
Une enquête signée par une jeune journaliste, Emma Garbou-Lorenzoni, pour l'Atelier des médias. Elle est retournée dans son ancien lycée à Paris avec un micro RFI qu'elle a tendu à des élèves, mais aussi à des profs, comme Nathalie, une professeure d'histoire-géographie.
Non, c'est pas un ennemi, faut pas le considérer comme un ennemi, parce que on va pas être très crédible longtemps. Si on commence à dire aux élèves que les réseaux sociaux, c'est le mal absolu, ils vont se dire, bon bah les adultes comprennent rien, on va même plus écouter. C'est au contraire, comment est-ce qu'on peut s'en servir et en quoi on peut l'utiliser de façon tout à fait pertinente et en quoi parfois, effectivement, ça peut être en danger. Mais parfois.
TikTok est une application chinoise. On lui reproche d'aspirer nos données personnelles, de laisser circuler de la désinformation et d'être addictive.
Alors forcément, TikTok est en quête de respectabilité.
Effectivement, et si on entend peu de responsables de TikTok dans les médias, quand il s'agit de mettre en valeur les initiatives positives sur la plateforme, ça répond, si j'ose dire. Marlène Mazur est directrice des opérations de TikTok France.
L'objectif, c'est effectivement d'expliquer finalement toute la richesse de contenu que l'on retrouve sur TikTok. C'est d'expliquer que on a des talents extraordinaires, on a des scientifiques, on a des passionnés, on a des experts qui créent un contenu hyper intéressant, éducatif sur différents sujets, sur les sciences, sur le français, sur la culture générale, sur l'histoire géo. On a aussi des utilisateurs qui ont envie d'apprendre. Et ce qu'on essaie d'expliquer aujourd'hui, c'est qu'on veut mettre en valeur ces créateurs et qu'on veut organiser cette rencontre entre ces créateurs de talent et ces utilisateurs qui ont envie d'apprendre.
Je vous invite vraiment à écouter l'enquête d'Emma Garbou-Lorenzoni sur TikTok, dont nous venons d'écouter deux extraits. On y entend aussi des créateurs de contenu comme Monsieur Prof ou le médecin préféré des Français, Michel Simès, ou encore la journaliste Océane Herrero qui a écrit un livre dont le titre est « Le système TikTok, comment la plateforme chinoise modèle nos vies ».
Ce que TikTok a changé dans les apprentissages des jeunes, ça c'est le titre de l'Atelier des médias qui sera diffusé à 11h10 en temps universel avec vous, Steven Jambot. Et l'émission est déjà disponible, sachez-le, en podcast sur RFI, Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute d'ailleurs. Le prochain journal consacré à l'actualité africaine dans un petit peu plus d'une minute. Je vous dis à tout de suite sur RFI.
Création, Maria Afonso.
Retournons à Notre-Dame de Paris avec 100% Création. Découvrez les compagnons, artisans d'art ou designers qui ont travaillé sur ce chantier. Ce dimanche, Marie Parent d'Alraud, restauratrice de peinture murale, elle a nettoyé et redonné des couleurs au mur des chapelles de Notre-Dame de Paris. Retrouvez-nous à 7h55 et 12h54, TU sur RFI.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Destination le Katanga, province riche de la République démocratique du Congo et berceau de la France-Afrique. Composée par des anciens d'Algérie, officieusement aidés par la France, une poignée d'hommes soutiennent et arment la sécession de la province en 1961 jusqu'à déclencher une guerre oubliée entre la France et l'ONU.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU sur RFI.